15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h, pendant une heure. Avec le docteur Jimmy Mohamed, bien sûr, notre médecin européen, nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Et pour ce faire, il est à mes côtés dans ce studio tous les jours. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un sujet qui préoccupe les hommes dès leur plus jeune âge. Que ce soit à 20, à 40 ou à 80 ans, les hommes se posent toujours des questions sur leur pénis. Trop grand, trop petit, il vire à gauche ou à droite. Il s'effondre parfois et puis repart à l'assaut. Notre invité, c'est le docteur Marc Galliano. Il lui a consacré un livre, Mon sexe et moi, chez Marabout. Il va nous aider à répondre une fois pour toutes aux questions que l'on se pose sur le pénis, souvent en secret. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Nous nous intéresserons à un bobo, justement, qu'on a tous dû subir un jour ou l'autre dans notre vie, le point de côté. Une douleur universelle, donc, mais qui est encore, vous allez voir, assez difficile à expliquer. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission, avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question d'infidélité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Margot.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question à propos de nos réfrigérateurs. Je voulais savoir comment on pouvait le nettoyer. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la Javel? Combien de fois par semaine faut-il le laver? Par mois, je ne sais pas à quelle fréquence. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur cette question? Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne émission.
Alors c'est une très bonne question parce qu'il y a des personnes qui ne savent même pas qu'un réfrigérateur, ça se nettoie régulièrement pour garder une bonne hygiène à l'intérieur et éviter bien sûr, Jimmy, les infections alimentaires, c'est ça, à la maison.
Oui, parce que certaines personnes pensent que le froid du réfrigérateur va tuer les bactéries. Or, c'est complètement faux. Votre frigo peut devenir un véritable bouillon de culture. Et donc, avant de parler nettoyage, il faut d'abord éviter de laisser les aliments se périmer ou pire, d'y moisir ou de les laisser pourrir trop longtemps, puisque à ce moment-là, des champignons vont se développer qui peuvent contaminer l'ensemble des aliments. Exactement, c'est ce qu'on appelle des contaminations croisées.
C'est la cata. Alors, passons au nettoyage à proprement parler, puisque c'est là-dessus que porte la question. Comment on s'y prend? On sort tout, on passe la Javel et hop, c'est réglé?
Alors, c'est pas si simple que ça. Tout d'abord, il faut évidemment essayer de tout sortir parce que vous serez plus efficace. Alors, ça peut prendre un peu de temps et attention aux produits frais, aux produits qui sont un peu fragiles. Mettez-les dans une glacière ou dans un sac isotherme pour ne pas rompre la chaîne du froid. Et puis, sortez tous les éléments qui sont amovibles du réfrigérateur pour les nettoyer. Donc, le bac à fruits, celui à légumes ou à viande.
Ça sent le vécu, vous le faites vraiment vous chez vous?
Moi, ouais, non, pas vraiment. C'est un peu ma femme qui le fait, je reconnais, elle le fait, mais je devrais m'y mettre un peu plus souvent.
Beaucoup, et en tout cas,
ils doivent être lavés avec de l'eau et du produit vaisselle. Et puis, on doit bien les rincer et les sécher. Et puis, n'oubliez pas de nettoyer les parois intérieures du frigo, en commençant par le haut et en finissant par le bas.
Alors justement, à l'intérieur, on nettoie, donc, vous avez dit, donc en commençant par le haut jusqu'au vers le bas, mais avec quoi? On prend quoi comme produit ménager?
Alors, l'eau de Javel, pourquoi pas, mais c'est un peu abrasif. Essayez des détergents peut-être un peu plus doux. Vous pouvez prendre tout simplement de l'eau chaude avec du vinaigre blanc.
C'est naturel, en plus.
Exactement, vous ajoutez quelques gouttes de citron pour une meilleure odeur. Ou de l'eau et du bicarbonate de soude, ça peut aussi marcher. Tout simplement, de l'eau et du savon. Et puis, si vraiment vous utilisez de l'eau de Javel, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément nécessaire.
Et l'idéal, Jimmy, pour éviter la prolifération des bactéries à l'intérieur, c'est de faire ce nettoyage, parlons-en, tous les combien?
Je sais pas, Mélanie, vous le faites tous les combien de temps, vous?
Oh, j'avoue, honnêtement, je le fais deux fois par an.
Deux fois par an. Plus. C'est pas mal, il faudrait le faire tous les mois et au moins tous les trois mois.
Je sais que c'est mal.
Parce que derrière, il y a un risque d'infection alimentaire et donc de troubles digestifs. Donc, un petit effort.
Bon, ok, allez, je vais essayer. Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question de Michael qui nous a appelé depuis Paris.
Bonjour, Jimmy. Bonjour, Mélanie. Est-ce que l'on peut attraper une maladie sexuellement transmissible en faisant un cunnilingus? Voilà. Merci.
Jimmy, cunnilingus et IST, MST, donc infection ou maladie sexuellement transmissible. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Michael?
Évidemment qu'avec un cunnilingus, on peut transmettre beaucoup de choses, du plaisir, mais aussi des virus et des petites cochonneries. Donc on peut choper du chlamydia, de la syphilis, de l'herpès, quasiment toutes les infections sexuellement transmissibles, en dehors du VIH, même si il y a certains cas dans la littérature qui sont décrits. Bref, il faut quand même faire attention parce qu'il y a un risque très important d'attraper ces petites infections.
Bon, vous allez donner le bouquet complet, mais c'est vrai qu'on parle peu souvent, et ça aussi avec le cunnilingus, je crois, si je ne me trompe pas que c'est possible, il y a un problème avec les virus HPV.
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors souvent, c'est des virus qui sont peu connus parce qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas méchants puisqu'ils sont responsables d'aucun symptôme jusqu'à ce qu'ils développent notamment des cancers. Et on sait très bien que l'HPV présent dans les muqueuses, par exemple vaginales, va être transmis ensuite dans la bouche du donneur de cunnilingus, et à ce moment-là, sur le long terme, vous pouvez avoir un risque de cancer ORL, cancer du pharynx, cancer de la gorge, bref, un petit virus qui peut avoir de vraies conséquences par la suite.
Et ça a un peu cassé l'ambiance, là, ce que vous venez de dire, effectivement, mais c'est du sérieux parce que ce risque de HPV, de cancer, donc vous parlez des voies ORL hautes, hein, oui, c'est ça, c'est normal, c'est du sérieux, ça, et puis c'est prouvé, il y a de la littérature là-dessus. Hein.
Oui, et c'est une étude de l'université Johns Hopkins qui avait publié en 2017 que les hommes sont plus sensibles que les femmes à la transmission de ce cancer oropharyngé par le biais des rapports oraux. Et ce risque est accru chez les hommes qui ont des partenaires multiples. On parle de partenaires multiples à partir de 5. Bref, c'est un réel risque et encore une fois qui est très sous-estimé. On parle souvent des autres IST, mais celui-là, il ne faut pas l'oublier.
Bon, bah, du coup, c'est peut-être le moment de rappeler qu'il y a quand même une vaccination contre ces virus. Alors, pas toutes les souches, mais une bonne
Exactement, c'est une vaccination qui est possible chez les petites filles et désormais aussi chez les garçons de 11 à 14 ans, entre 2 et 3 injections, avec un rappel possible jusqu'à 26 ans pour les hommes, notamment, qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Parlez-en avec votre médecin, mais la vaccination permet d'éviter certains cancers.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Mickaël, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité. C'est le docteur Marc Galliano. Il est andrologue et va venir nous parler du livre qu'il vient de publier. Ça s'appelle « Mon sexe et moi » chez Marabout. Il va nous aider à répondre une fois pour toutes aux questions que l'on se pose sur le pénis. Le plus souvent en secret, il faut le dire. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors, c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Marc Galliano. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes andrologue à Paris et l'auteur avec la journaliste Rika Etienne du livre « Mon sexe et moi » chez Marabout. Alors, première question que j'ai envie de vous poser quand même, c'est il y a tant de choses à dire sur le pénis pour écrire un bouquin entier dessus.
Eh ben oui, je pense, parce que c'est un organe qui est un peu mystérieux, alors que les garçons ont tendance à se le tripoter depuis tout petit. En fait, il n'y a pas eu trop de littérature dessus, et je pense de la méconnaissance de cet organe externe, le pénis, il y a beaucoup de problèmes et de tabous qui se sont créés. Mmh. Donc avec Rika, on a décidé de lever un peu le voile là-dessus.
Alors, dans votre livre, vous parlez bien sûr des pépins, des soucis médicaux qui peuvent le toucher, ce pénis. Mais vous commencez quand même par l'observation, on va dire, de cet organe en lui-même. Un chapitre que vous avez baptisé « Anatomie du chef-d'œuvre ». Oui, c'est écrit, hein, je l'ai lu. Car tous les hommes, les jeunes, se sont posé un jour la question, c'est vrai, est-ce qu'il est normal, ce chef-d'œuvre ?
Ben oui, parce qu'au départ, on se construit par rapport au regard de la maman. Donc, en général, elles sont toujours émerveillées. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité ? Donc, après, on doute. Et du doute surgit les questions. Et en effet, chaque verge est unique, un peu comme chaque vulve aussi. Donc, partant de là, on a chacun son propre chef-d'œuvre.
Jimmy.
Lorsqu'on parle de normalité, forcément, la question de la taille se pose. Quelle est la taille normale d'un sexe en érection et hors érection d'ailleurs ?
Alors, en érection, on va dire que 65% des hommes...
Je croyais qu'il allait dire 65 cm, j'ai un petit peu peur.
Non, ça c'est peut-être chez la baleine.
Voilà, c'est ça.
Mais chez l'humain, c'est environ 13,22.
Ah, c'est précis.
Mais c'est super précis. Parce que ouais. C'est important parce que les millimètres pour certains hommes, c'est vraiment, ça équivaut à des centimètres pour d'autres. Donc c'est très important. Et puis en circonférence, on arrive aux alentours des 11 centimètres. Et puis il y a le repos. Parce qu'il y a quand même deux pénis à distinguer, le pénis de chair et le pénis de sang. Donc le pénis de chair, c'est un pénis qui est déjà très long au repos, mais qui fait que durcir. Et le pénis de sang, il est un peu plus spectaculaire, donc il est plutôt petit au repos, mais il peut doubler, voire tripler en érection.
Voilà, il y a deux sortes. Alors maintenant, vous vous casez dans celles que vous voulez, les uns et les autres.
J'ai mis une petite idée, peut-être.
Alors, une question. Pourquoi la moitié des hommes, parce que c'est ce que vous écrivez dans votre livre, aimerait en avoir un plus grand ? C'est ce qu'on appelle le syndrome du vestiaire. Hein, mais
exactement.
Vous dites que finalement, c'est un peu un problème de géométrie physique, ce syndrome du vestiaire.
Ben oui, parce que de toute façon, quand on est dans un vestiaire, on voit surtout celle de l'autre en face, et puis on voit toujours la sienne vue d'en haut. Mmh. Forcément, comme elle est plutôt verticalisée, on a toujours un sentiment de raccourcissement de base. Bon, après, il faut savoir aussi que le syndrome du vestiaire, lorsqu'on a fait du sport, le sang, il est aux jambes, aux abdos, aux bras, il n'est pas dans la verge. Donc forcément, on est toujours, surtout quand on a un pénis de sang, avec une plus petite verge. Donc il ne faut pas s'en inquiéter, surtout pas. Il faut simplement s'assumer.
Jimmy.
Donc la taille, effectivement, ça inquiète souvent les hommes. Mais parfois, on parle de micro-pénis sans trop savoir quelle est la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un micro-pénis du point de vue d'un urologue ?
Alors, du point de vue d'un urologue, aujourd'hui, la définition du micro-pénis, elle est assez stricte, elle est assez claire. C'est 7 cm en érection.
D'accord, 7 voilà. cm en érection. Ça, c'est la définition. En dessous de ça, c'est que des micro-pénis.
Alors, on considère qu'en dessous de 7 cm, c'est un micro-pénis. Mais il faut quand même aussi tenir compte du patient. On peut avoir des patients qui ont des petites verges, mais très épanouies sexuellement, parce que la pénétration...
C'est pas toujours un handicap, quoi.
Non, c'est pas toujours un handicap, parce que la sexualité, il faut pas la cantonner, la réduire à la pénétration. On peut avoir des sexualités épanouies sans pénétrer, et puis on peut avoir des sexualités autrement, par des caresses. Et donc, la taille de la verge, c'est pas tellement la longueur qui compte quand on parle de pénétration vaginale, mais c'est surtout plutôt le diamètre qui compte.
Justement, il y a des légendes ou alors des idées reçues qui circulent sur des astuces pour allonger ou grossir la verge. Le sport, par exemple, pourrait faire grandir le pénis. C'est vrai, c'est
alors,
faux?
Non, ça c'est une légende. Par contre, se tirer sur la verge, on peut la faire un petit peu s'allonger.
Enfin, il faut tirer longtemps souvent, non?
Alors, il faut tirer longtemps, c'est 4 heures par jour. Ce sont des extenseurs de verge qui sont bien adaptés. Mais attention quand même.
Un peu ça quand même.
Ouais, attention quand même de ne pas s'étirer trop le nerf, parce que ça s'appelle une neuropathie. Et ensuite, on peut avoir des douleurs au repos comme en érection qui vous pourrissent la vie. Donc, il faut raison garder. On peut en effet s'allonger un petit peu la verge. Si on pense aux sadhus indiens qui se mettent des cailloux autour de la verge et des verges qui font 2 mètres, ce sont plus des verges utilisables.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc
eux, ils arrivent vraiment à les tirer beaucoup. Mais
exactement, ouais. Parce que c'est
mais
une structure.
Elle
sert plus à rien. Donc c'est décoratif. Donc il vaut mieux.
Mais vous n'êtes pas tenté, j'ai l'impression, par les cailloux. Hein,
mais vous dites c'est décoratif. Hein, quelle décoration, surtout. Non, mais, bon, moi, j'oublie les extenseurs parce que tout de suite, là, ça fait un peu un instrument de torture. Mais oui. Certaines crèmes disent pouvoir, on trouve ça dans certains sex shops ou sur Internet, alors, qu'on pourrait allonger le sexe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors,
est-ce qu'il faut les déconseiller?
Au repos, oui. Par exemple, on sent sans dévoiler un secret médical, bien sûr, mais certains porn stars utilisent des crèmes chauffantes, en fait, tout simplement. Ce sont des vasodilatateurs. Vous avez donc une verge un peu plus. Ben, vous avez une verge de chair.
En apparence,
c'est-à-dire qu'au repos, votre verge, elle va être un peu plus dilatée, vasodilatée, donc un peu plus lourde, un peu plus longue. Et donc, vous avez une verge qui correspond à peu près à une verge que vous avez en détumescence après une relation sexuelle.
Mais c'est pas durable.
Mais c'est pas durable, non. Alors après, vous pouvez développer des allergies, vous pouvez développer un eczéma sur la verge à force de mettre des crèmes chauffantes.
Voilà, laissez tranquille un petit peu, je crois.
Oui, il vaut mieux.
Parfois, c'est nécessaire. On a parlé quand même de certains micro-pénis. Alors, vous disiez en dessous de
7 cm.
Voilà. Ouais. Quand ça devient vraiment un handicap et que l'homme est très gêné, il y a quand même des techniques médicales. Vous avez parlé des extenseurs de verge. Est-ce qu'il y a des opérations? Je ne sais pas, on rajoute un bout de prothèse, j'en sais rien, pour l'agrandir, l'allonger, c'est possible?
Alors, en toute honnêteté, les techniques qu'on a pu développer sur les 20 dernières années d'allongement de verge en faisant des micro-incisions, en utilisant des hétérogreffes.
Parce qu'il y a une partie interne, je crois,
en
coupant un nerf, on la voit l'allonger un tout petit
alors,
peu.
Alors, ce sont les ligaments. Alors, la verge, elle est retenue au pubis par des ligaments. On peut les couper, mais on va avoir un allongement de la verge au repos, mais en érection.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment dans le traitement du syndrome du vestiaire. Maintenant, si on veut vraiment allonger sa verge, c'est une chirurgie qui est tellement complexe, avec beaucoup de complications. Il faut vraiment la réserver dans des indications très particulières. Où là, ça s'utilise. Alors, il y a très peu de centres,
beaucoup,
on en fait très peu en France.
Ça, ouais.
C'est des centres spécialisés parce qu'il faut utiliser des implants, il faut utiliser des tissus qu'on peut suturer, donc on appelle du SIS. Enfin, c'est très complexe et les résultats sont jamais très 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 bons.
Jimmy,
aucun rapport avec la politique, mais certaines verges vont vers la droite, d'autres vers la gauche. Est-ce que ça a une importance, le sens?
Alors non, on peut porter à droite, on peut porter à gauche. En fait, ça dépend. D'abord d'une habitude vestimentaire, mais surtout, il faut savoir que personne n'est symétrique, à part peut-être un certain mannequin. Et donc, votre nez, comme le mien,
exactement,
les nez tournent
et
la verge aussi.
Ouais.
Parce que les corps caverneux ayant des longueurs un petit peu différentes, on va avoir une courbure naturelle. Ça n'a rien à voir avec la maladie de la péronie, qui est une courbure acquise.
On en parlera après.
Voilà, mais donc on peut avoir la verge qui part sur le côté à droite ou à gauche.
Mais aucun changement fonctionnel derrière.
Aucun changement fonctionnel.
Docteur Galliano, on ne fait que commencer cet entretien. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à parler de toutes les interrogations que l'on peut avoir, d'ailleurs hommes et femmes, pourquoi pas. On a parlé anatomie jusque-là, on va passer un peu à son fonctionnement à présent, et notamment d'une inquiétude majeure chez l'homme, les problèmes d'érection. On va entrer dans le détail dans quelques toutes petites minutes, alors surtout, surtout, restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit, sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et notre invité, c'est vous, docteur Marc Galliano. Vous êtes andrologue et urologue à Paris et l'auteur du livre Mon sexe et moi chez Marabout. Alors, on a parlé beaucoup anatomie du pénis, mais quand il y a le pénis, il y a quand même les testicules en dessous. Donc, on va en dire un petit mot. Est-ce que c'est aussi un sujet de préoccupation, les testicules, leur apparence, leur taille chez les hommes, ou finalement, ils s'en fichent un peu et il n'y a que le pénis qui compte?
Ah non, c'est important parce qu'il y a beaucoup de questions sur la symétrie, Est-ce que c'est normal d'avoir deux testicules qui ne sont pas à la même hauteur? Bah oui, parce que courir, lorsqu'on était des chasseurs-cueilleurs, courir après un mammouth avec les deux testicules l'un à côté de l'autre, ben ça fait du tac-tac-tac, ça fait un mal de chien. Donc les testicules se mettent l'un sur l'autre, ils sont à la verticale, et donc forcément il y en a toujours un plus haut que l'autre.
D'accord.
La nature est bien faite.
Et l'esthétique, les avoir, je ne sais pas, gros, petit... Oui, est-ce que ça a une importance, c'est une nature pour... enfin, ça crée des complexes, ça, ou pas du
tout? Oui, ça peut créer des complexes. Alors surtout, il y a une problématique qui survient avec l'âge lorsqu'on a le scrotum, donc l'enveloppe des testicules qui commence un peu à s'avachir. Et lorsque le scrotum est un peu plus long que la verge, on peut à ce moment-là réaliser de la chirurgie.
Ça s'avachit chez l'homme aussi, ça fait du bien de savoir ce genre de choses.
Ben oui.
C'est moche, hein, c'est moche, qui pend,
exactement.
Il faut le reconnaître. Non, mais c'est vrai.
Et donc il y a une chirurgie de en fait, un lifting scrotal.
Lifting des testicules.
Exactement.
Ouais, on savait même pas que ça existait, mais d'accord.
Oui, okay. et on refait, on rééquilibre un petit peu l'harmonie entre la longueur de verge et le.
Vous faites
testicules.
Des liftings de testicules.
Oui.
D'accord. Mais il y a beaucoup de demandes.
Il n'y a pas beaucoup de demandes.
Est-ce que c'est que des personnes âgées? Parce qu'on a cette image de la personne âgée de 80 ans et le testicule tombe.
Ils s'en foutent, non?
Je ne sais pas. Mais est-ce que le sujet jeune de 30-40 ans peut aussi avoir les testicules qui pendent et qui veut remonter un peu?
Oui et non, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est surtout les hommes qui sont sexuellement actifs et puis les hommes pour qui l'apparence est très importante. Donc c'est en général des naturistes, c'est un peu des libertins. Donc, on a ce souci de l'esthétique, de l'image qu'on renvoie à l'autre. Mais, au demeurant, ça concerne plutôt des hommes un peu plus mûrs. Pour l'instant, je n'ai jamais opéré un jeune d'un lifting scrotal. Par contre, il y a une chirurgie qu'on peut faire sur la verge. Lorsqu'on a une palmure, c'est-à-dire quand on a trop de peau entre les testicules et la verge,
on peut faire une chirurgie. Ça peut être palmé entre les deux,
exactement.
D'accord.
Moi,
comme
j'appelle
entre
ça
les doigts
exactement,
entre les pieds.
Moi, j'appelle ça l'aile de Batman ou de chauve-souris. Ça diminue la longueur fonctionnelle de verge.
J'avais même pas que ça existait, ça non plus. J'apprends plein de choses aujourd'hui, c'est incroyable.
Et là, voilà. Et là, on peut faire une très jolie chirurgie qui redonne de la longueur et un bel aspect à la verge.
Restons encore un tout petit peu sur l'anatomie. On a eu une question d'ailleurs récemment d'un auditeur qui nous demandait si la circoncision modifiait la sexualité. Est-ce que être circoncis ou pas, ça change quelque chose finalement après dans le côté fonctionnel, on va dire?
Alors, il faut rester là très très, très prudent parce qu'il y a quand même deux groupes très très tranchés, des pour et des contre. Il faut se mettre dans la voie du milieu. Il y a un petit groupe de patients qui va en effet être un peu pénalisé par la circoncision, même si elle est d'ordre médical. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire des circoncisions pour des raisons médicales, mais aussi esthétiques et religieuses. C'est le petit groupe de patients pour qui le gland est très sensible lorsqu'il est à l'air, et cette sensation, cette hypersensibilité est voluptueuse lors de la fellation, lors de la pénétration, et en effet, lorsqu'on fait une circoncision totale, on va être un petit peu pénalisé parce que ces sensations de volupté vont diminuer un petit peu. Donc attention, ce petit groupe de patients.
Jimmy.
Allons droit au but, qui dit pénis dit érection, et vous dites que l'érection, finalement, c'est un miracle. Et que les hommes sont en fait...
Dans son livre, il y a écrit « Bander, c'est un miracle ». Je le dis tel que c'est écrit.
Je le confirme. C'est un miracle parce que c'est une conjonction d'une cascade chimique, physique, mécanique absolument extraordinaire. On pense que bander, c'est naturel, mais en fait, c'est très complexe. Nous, en permanence, les garçons, on n'a pas d'érection. Pourquoi? Parce qu'on a une camisole chimique qu'on appelle le cortisol et l'adrénaline qui coule dans nos veines. Et donc, pour pouvoir avoir une érection, c'est un phénomène de relaxation. Donc, il faut être détendu. Donc, on ne peut pas forcer une érection. Donc, il faut lever l'inhibition. Il faut sécréter des petites hormones qui vasodilatent. Il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son couple. Donc, en effet, une érection, c'est miraculeux. Et tous les petits grains de sable, évidemment, à 20 ans, on va les broyer parce qu'on a une sorte d'énergie vitale. Quand on commence à avoir 40, 50, 60 et plus, ça commence à être un peu plus compliqué et ça peut toucher. Ben, on a un peu de diabète, un peu de cholestérol, on fume un peu trop, on ne fait pas assez de sport, on ne dort pas assez bien et blâme, on peut avoir une difficulté érectile.
Alors justement, puisqu'on parle de difficulté érectile, c'est quand même la grosse angoisse pour les hommes. Dans votre livre, vous expliquez qu'il est très important quand on a un problème d'érection de savoir si la cause du problème elle est organique ou psy et que finalement, pour le savoir, il suffit de poser quelques toutes questions très simples.
En effet, bien souvent, les deux sont liés parce qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit. Donc, quand on a des difficultés érectiles, on a forcément une mauvaise image de soi, on a une sorte d'angoisse de performance, donc les deux sont liés. Mais globalement, pour faire la part des choses, c'est est-ce que cette dysfonction érectile, donc ces troubles de l'érection, c'est arrivé brutalement ou pas?
Ça, c'est la première question.
Première question, quand c'est progressif, c'est arrivé lentement, sur plusieurs mois, voire plusieurs années, on pense que c'est plutôt organique, donc c'est plutôt nerf, artère, c'est plutôt un problème mécanique. Lorsque ça survient brutalement, là, on pense que c'est plutôt dans la tête. Alors après, il y a le côté situationnel. Est-ce que ça arrive avec tout le temps ? Alors, à la masturbation, quand je suis tout seul, tranquille, tout seul, ou quand je suis en présence de quelqu'un, femme ou garçon, peu importe. Si on dit oui, c'est situationnel, on peut dire que c'est plutôt émotionnel, donc c'est plutôt dans la tête. Quand c'est avec tout le monde, même tout seul, c'est plutôt organique. Et puis, il y a d'autres questions.
Jimmy.
Dans votre livre, vous dites même que lorsque vous serrez la main de quelqu'un, vous savez tout de suite à quoi vous en tenir lorsqu'on parle de...
C'est un petit secret d'urologue, ça.
Ouais, c'est ça, que je ne connaissais pas d'ailleurs.
Il rentre, hein, il vient pour dysfonction érectile, il lui serre la main, il sait déjà.
Et là, paf, vous savez...
Alors, comme tous les médecins, Jimmy, vous savez aussi, quand on voit un patient qui est en salle d'attente, de la façon déjà comme il vous répond, comme il vous regarde, comme il se déplace, on a déjà plein d'informations. Et ensuite, le toucher de main, on sent éventuellement quelqu'un qui est plutôt dans l'émotionnel, quelqu'un qui est plutôt dans l'affirmation. Et d'ores et déjà, c'est pas de la magie, mais on peut avoir une intuition qu'on va confirmer par des questions et puis éventuellement par des bilans sanguins et puis des examens un peu plus compliqués comme l'échodopperpénien. Notre intuition.
Non, mais donc quoi, une poignée de main un peu molle, finalement, bah c'est.
Ça va être psy.
Un peu molle, ça peut être quelqu'un qui va être plutôt. Qui sera peut-être un peu moins actif dans ses propositions, qui va être plutôt dans l'attente. Et donc, forcément, s'il a un partenaire ou une partenaire un peu plus affirmé, attention à l'émotionnel. Dans ces cas-là, on peut avoir des dysfonctions érectiles plutôt. D'ordre émotionnel.
Donc en serrant la main, vous savez quel traitement vous allez lui proposer déjà dans la salle d'attente. C'est un peu ça, pour traiter les problèmes d'érection.
Mais avec le Covid, de toute façon, maintenant, on ne serre plus la main.
Ah oui,
plus
c'est vrai. Alors
donc, je suis très embêté. maintenant.
Je suis un petit peu amputé. Je suis amputé de la main.
Bon, là, il est obligé vraiment d'en sculpter plus précisément. Merci, docteur Gagliano. On va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous allons rester sur le fonctionnement du pénis avec d'autres questions qui trottent parfois dans la tête des hommes. En secret, on parlera d'autres dysfonctionnements et même de comment améliorer tout ça grâce à des exercices tout simples qu'on peut faire chez soi au niveau de son périnée. Oui, faire travailler son périnée. Jimmy, vous allez voir, c'est pas qu'une histoire de femme. On vous détaille tout ça juste après.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed. Donc, et notre invité, c'est vous, docteur Marc Galliano. Vous êtes andrologue et urologue à Paris et l'auteur du livre « Mon sexe et moi » chez Marabout. Alors, juste avant, on parlait d'érection, parce que lorsqu'on parle du pénis, c'est quand même souvent une grande préoccupation que tout ça, ça fonctionne bien. Et dans votre livre, j'ai appris un truc, un autre encore. Le pénis, il est plus fragile le matin vis-à-vis du risque de fracture. Alors déjà, fracture du pénis, on est d'accord, il n'y a pas d'os dedans, c'est quoi ? Et pourquoi plus le matin ? Cette fragilité.
Alors, en effet, on peut se casser la verge, donc sans faire peur à tout le monde. La verge, elle est enveloppée d'un tissu très résistant qu'on appelle l'albuginé, qui est élastique aussi, mais à un moment donné, lorsqu'on dépasse une certaine limite, ça peut se casser. On peut casser un côté, on peut casser deux côtés, on peut se fissurer. Alors pourquoi le matin ? Parce que l'érection du matin, elle est assez énergique, surtout lorsqu'on est jeune. Et bien souvent, c'est là où des fois, il peut y avoir quelqu'un qui rentre de façon inopinée dans la chambre ou dans une cabine sur un bateau. Et donc là, on veut éventuellement, plaf, rentrer John dans son caleçon et bam.
Oui, parce que dans tout le livre, en fait, le pénis, il l'appelle John. Hein, c'est vrai.
Oui, c'est ça. John, c'est...
Le petit surnom.
Ben ouais, on peut l'appeler Popol, mais John, c'est quand même.
C'est sympa, John.
Oui, enfin bon, la personne qui entre brusquement, là, comme ça, là, je connais pas trop.
Les
bon.
Mamans. Les mamans. Jimmy.
Ah oui,
les mamans. Jimmy.
Si, pardon. Mais
oui, les mamans. Les mamans.
Et d'ailleurs, justement, quand on parle de fracture du pénis, j'en ai vu quelques-unes aux urgences. Une fois que ça arrive, le sexe ressemble à quoi ? Il a une forme un peu particulière parce qu'il n'est pas joli ensuite.
On dirait une aubergine. Hein, alors, moi, j'ai vu des photos.
Alors, c'est une aubergine. Et puis, il y a une définition qui est assez jolie, c'est la fameuse aile de papillon. De l'hématome sur le périnée. Ça nécessite une intervention chirurgicale en urgence. Il faut donc disséquer soigneusement le fourreau de la verge, évacuer l'hématome et ensuite suturer l'enveloppe qu'on appelle l'albuginé, donc sur les corps caverneux, pour éviter les risques d'impuissance ou de maladie de la péronie secondaire.
Alors justement, on y vient. La maladie de la péronie, c'est quoi d'ailleurs ce problème ?
Alors la maladie de la péronie, c'est une blessure de cette enveloppe, hein, l'albuginé. Alors évidemment, c'est moins violent que sur une fracture, mais on peut s'abîmer lors de sa vie sexuelle, hein. On a des tensions dans la verge et la verge, comme une feuille de papier qu'on plierait un million de fois, elle peut se fissurer. Et lorsque malheureusement on a des mauvais gènes ou on a une mauvaise hygiène de vie, on peut mal cicatriser. Et sur une structure élastique, lorsqu'on a un point fixe,
ça va se tordre.
Ça se tord du point fixe, du côté du point fixe.
Il y en a qui sont très coudés. Hein. Il y a des exemples de graves maladies de la péronie.
Ouais,
hein.
Malheureusement, ça pallie de 20 degrés. Jusqu'à 90, 100, 120 degrés. Donc 120 degrés, c'est un U. Oh. Donc avec un U, on ne peut plus pénétrer.
Ah ben non, là on comprend bien Jimmy.
Oui.
Il a dit un U et là ça l'a arrêté total.
Le U, je ne connaissais pas la forme du U, mais bon, peu importe. Les hommes rêvent souvent d'une érection longue, très longue, mais il faut rappeler que lorsqu'elle dure trop longtemps, ça peut être dangereux.
Alors en effet, on appelle ça le priapisme. Il y a deux types de priapisme, même trois on va dire. Il y a le priapisme qu'on appelle pharmacologiquement provoqué. Donc ce sont les patients qui ont des médicaments pour... obtenir des érections.
La petite pilule bleue qui en fonce un peu sur la dose, il y a aussi
des injections de prostaglandine. Donc là, on peut avoir une érection qui va durer plus de 4 heures, mais qui globalement est peu dangereuse. Elle est douloureuse, mais peu dangereuse. Lorsqu'on a un priapisme à haut ou à bas débit, donc c'est deux types de priapisme, en fait, on en fait le diagnostic avec le gland. Si on a un gland dur ou si on a un gland mou, attention, la verge commence à s'abîmer sérieusement au bout de 6 heures.
Waouh!
Donc il faut à ce moment-là aller aux urgences, se faire drainer les corps caverneux.
On ne reste pas chez soi, on consulte,
non,
c'est très important.
Exactement,
hein.
C'est pas...
Il peut y avoir de graves séquelles si on ne fait rien. Ouais.
Quand on prend de la drogue, comme la cocaïne par exemple, lorsqu'on fait des mélanges de drogue, cocaïne, Viagra, on peut avoir des érections pharmacologiquement prolongées au-delà de 6 heures, et c'est dangereux pour les corps caverneux, parce que les corps caverneux, au même titre que n'importe quel tissu, ils souffrent du manque d'oxygène, et donc ensuite, il y a des troubles de l'érection.
Jimmy.
Un chapitre dans votre livre est consacré aussi à l'éjaculation. Et en fait, plus on serait excité, plus on produirait du sperme, c'est ça en fait ?
Alors, je précise quand même que l'éjaculation dans votre livre, donc le sperme, vous dites que c'est l'or blanc de l'homme. Non, parce qu'il y a des choses très poétiques dans votre bouquin. Moi, j'ai bien aimé.
Alors, il faut rendre hommage à Rika Etienne, puisque nous avons fait cet ouvrage à quatre mains, deux cerveaux.
L'or blanc, c'est elle.
Et l'or blanc, c'est elle. En effet. Donc, pour en revenir à l'excitation, plus on est excité, plus l'excitation dure longtemps, plus les sécrétions, parce que le volume de l'éjaculat, en fait, 80% du volume de l'éjaculat provient des petites vésicules séminales. Donc, c'est deux sacs qui fabriquent, au-dessus de la prostate, qui fabriquent des sécrétions qui permettent aux spermatozoïdes de vivre plus longtemps, d'être plus toniques lors de la fécondation. Donc, en effet, plus on est excité, plus on sécrète et plus on peut avoir un volume important et abondant de sperme, en sachant que les spermatozoïdes, eux, ils sont produits en permanence, tout le temps, ils s'accumulent.
Jusqu'à la mort, enfin, je sais pas, le sperme,
jusqu'à
est-ce que les hommes en produisent
jusqu'à... En effet, ouais. On peut retrouver des spermatozoïdes chez les garçons. Alors attention, il y a des quantités quand même minimales requises pour être fécondant.
Et le sperme, vous dites dans votre livre aussi, qu'il change un peu de couleur en vieillissant, je ne savais pas du tout.
Oui, et puis il peut changer aussi même sans vieillir, c'est-à-dire que si vous avez un peu de sang, il peut se teinter en rouge, rosé, voire marron. Il peut être plus ou moins nacré, plus ou moins jaune, mais alors attention, un sperme jaune, il faut quand même penser quand même à l'infection.
Oui, bien sûr.
Donc il faut quand même consulter. Donc un sperme, il a, on va dire, une odeur, un goût, qui est à peu près attitré pour chaque individu, donc c'est une signature. Comme on dit dans les parfums, une signature.
C'est très poétique, ça.
Oui, c'est ça. On reste dans la poésie.
Ouais.
Et donc, tout changement ou modification doit faire consulter pour éliminer au moins une infection.
Jimmy.
Un autre chapitre dans votre livre donne des astuces qui permettraient d'améliorer ce qu'on appelle sa puissance éjaculatoire.
Celui-là, vous l'avez lu avec attention, je vois.
Ça veut dire qu'il suffit de travailler son périnée. Alors d'ailleurs, à quoi ça sert? Parce qu'on ne va pas faire du tir à l'arc avec. Pourquoi travailler sa puissance éjaculatoire? Et comment est-ce qu'on fait si jamais on veut avoir un débit pas tuyau d'arrosage, mais quelque chose de
puissant.
Voilà.
Alors, là, c'est moins poétique, hein, Jimmy. Je suis désolé, allez-y, docteur.
C'est plus pragmatique.
Alors, la propulsion de l'éjaculat, Elle est faite grâce à des muscles qu'on appelle des bulbo-caverneux et des ischio-caverneux. Ce sont des muscles.
On dirait des noms de Pokémon.
Mais c'est joli. Ben ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et vous avez donc, si je vous invite, j'invite les auditeurs, sauf ceux qui sont en voiture, bien sûr, à se toucher l'urètre bulbaire. Donc c'est sous les testicules, il y a un petit renflement. Donc c'est un petit renflement qui se trouve à la sortie de la prostate, au niveau des canaux éjaculateurs. Il peut y avoir une accumulation. Et lorsqu'on contracte ces muscles du périnée, on peut envoyer son sperme un peu plus loin. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert,
Ça
sert
à rien,
pas à grand-chose, mais à l'excitation. Donc, tout ça, ça participe à l'excitation.
Et donc, c'est des exercices qu'on peut faire quoi, le matin, au saut du lit.
On veut. Par exemple, je peux proposer à Jimmy de faire ces exercices périnéaux. Il y a un exercice qui est très facile à faire. Il faut se mettre juste au bord de sa chaise.
D'accord.
Évidemment, il faut être plutôt nu. Il faut laisser pendre ses testicules et sa verge. Et il faut tenter de faire remonter sa verge, uniquement sa verge, en contractant ses muscles. Alors, c'est pas l'anus ni les abdos. Alors, il faut s'exercer un petit peu, un peu d'entraînement.
Donc, le périnée, ce n'est pas qu'une histoire de femme. Hein,
non, d'accord. C'est très important parce que ça augmente la qualité de l'orgasme aussi, un orgasme plus
intense.
C'est pas
intense. Que tirer loin, c'est bien, non. Apparemment.
Et donc, on peut très bien faire des stages de remusculation, en tout cas de connaissance, déjà, ne serait-ce que de connaissance de son périnée.
Bah, vous me direz où est-ce qu'on fait
ces stages-là ? Oui,
j'allais
dire, c'est où ?
Je sais pas, je connais pas la salle de sport qui fait
non,
ça.
Non, mais Ibiza, souvent, vous pouvez faire ça.
À Ibiza, on peut faire ça, très bien.
Merci beaucoup, Dr Galliano, d'avoir accepté de répondre à nos questions et nous avoir éclairé donc, sur toutes ces interrogations qu'on peut avoir sur le pénis et dont on n'ose pas toujours parler. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, donc, je rappelle le titre de votre livre, Mon sexe et moi, coécrit avec Rika Etienne aux éditions Marabout. Merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, notre chronique Les bobos du quotidien. Et nous nous intéresserons à un bobo justement qu'on a tous dû subir un jour ou l'autre dans notre vie. Le point de côté, une douleur universelle, mais qui est encore assez mystérieuse, vous allez voir. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé, c'est tous les jours, de 15h à 16h, en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Il est temps maintenant de passer à notre séquence, donc les bobos du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur ce bobo universel. Vous avez déjà tous eu, j'en suis sûr, un point de côté. Mais savez-vous pourquoi il survient quand on fait du sport en général? Est-ce le signe que quelque chose va mal dans le ventre ou pas? Comment le faire passer plus rapidement? Justement, Benjamin Lévesque a été vous interroger sur ce sujet. On écoute son micro-trottoir.
Quand on court, qui survient sans prévenir... Généralement quand on n'en a pas envie.
Je courais quelques kilomètres, ça m'arrivait d'avoir un point de côté et tout.
Qu'est-ce que c'est qu'un point de côté? C'est vrai? C'est quoi cette histoire? Soit le corps manque d'eau?
C'est comme un élancement, oui, ça tire, on a l'impression qu'effectivement il faut s'arrêter de courir parce que là ça devient vraiment... C'est pas dans les jambes, c'est vraiment au niveau de, ouais, je sais pas, du ventre.
On a les boyaux qui se tordent sur le côté.
Je suis de respirer, ralentir un peu le rythme, et puis ça disparaît comme c'est venu. Problème d'oxygénation, je pense.
On est obligé de s'arrêter, hein, c'est insupportable. Donc ce que je faisais, je marchais, je respirais pour faire en sorte que ça s'atténue.
Jimmy, on parle du point de côté à présent. D'abord, est-ce qu'il y a une... Je ne sais pas si on peut parler de définition, mais on voit à peu près tous déjà quand même de quoi il s'agit. Est-ce que vous pouvez nous le préciser quand même un peu? C'est quoi comment, enfin, quelle douleur, est-ce qu'on peut la qualifier?
Moi, je suis sûr que c'est pas à tout le monde, à nos auditeurs et aussi aux joggeurs du dimanche qu'on a pu voir pendant le confinement. Ces gens qui, tout d'un coup, se sont révélés une passion pour le jogging et qui ont disparu à la levée du confinement. Eh bien, ils ont connu ça. Alors, c'est une forme de crampe qu'on a sur le côté, souvent au niveau des côtes, à gauche ou à droite, et qui apparaît à l'effort et cède lorsqu'on s'arrête tout simplement de faire son activité.
Alors, vous disiez, c'est un truc de sportif du dimanche, donc vous devez connaître ça très très bien. quelles sont les causes de ce point de côté? C'est un truc de sportif, et donc ceux qui en font moins, ils sont plus sujets, c'est ça?
Oui, alors sachez que moi, je n'ai jamais de point de côté, puisque je ne fais pas de sport.
Ah,
et donc
voilà,
forcément,
ouais,
je n'ai pas de problème.
Vous êtes épargné par le problème.
En tout cas, l'explication reste encore assez mystérieuse. Certains experts pensent malgré tout que la majorité des points de côté sont dus à une mauvaise dynamique respiratoire. Le diaphragme, qui est un muscle qui est situé en dessous de la cage thoracique, est mal utilisé et du coup, il se fatigue plus vite et quand il se contracte, eh bien, l'air rentre et lorsque vous expirez, l'air ressort. Et donc, vous avez une mauvaise technique respiratoire et à ce moment-là, eh bien, vous avez mal parce que vous avez une mauvaise dynamique, surtout en tout début d'activité puisque vous manquez de régularité, vous ne respirez pas correctement.
On expire même pas très bien.
C'est surtout l'expiration.
Ça, ouais,
et ça entraîne ces crampes qui peuvent survenir finalement partout, mais aussi du coup sur ce diaphragme.
Alors, vous disiez que c'est souvent donc, cette histoire de diaphragme. C'est une hypothèse, hein, parce que je crois qu'on n'a vraiment pas toutes les réponses concernant ce point de côté qui pourtant existe depuis très longtemps. Donc ça veut dire que si ce n'est pas toujours le diaphragme, il pourrait y avoir d'autres raisons qui...
Oui, c'est vrai que les causes restent encore mystérieuses et peu d'études se sont penchées sur la question vu que c'est un problème bénin.
Pas très grave. Oui,
et, finalement, c'est compliqué à prouver d'ailleurs d'où ça vient. Il y a d'autres hypothèses. Alors certains pensent que lorsqu'on fait une activité importante, le foie va être plus vascularisé, il va gonfler et entraîner une compression au niveau
en
du diaphragme.
Un peu, ouais, d'accord.
Certains pensent que ce serait une insuffisance justement de sang au niveau du diaphragme qui provoquerait les douleurs, mais l'hypothèse qui serait la plus probable, en tout cas celle qui est la plus répandue, serait celle d'une légère irritation du péritoine. Le péritoine,
c'est quoi?
C'est cette membrane qui entoure les organes de l'abdomen. Elle est composée de deux couches qui fait que lorsqu'on fait du sport, elle
surtout
en friction.
Surtout quand on court, hein, c'est ça.
Exactement. Ouais. Elle se frotte et donc à ce moment-là, on peut provoquer une petite inflammation qui serait douloureuse, même si on n'a pas vraiment d'explication sur pourquoi ça viendrait à gauche ou à droite, et surtout au niveau des côtes.
Bon, pourquoi? On voit que ce n'est pas tout à fait clair encore, mais en tout cas, ce qu'on sait, quand on en a déjà eu un, c'est que ça passe quand même assez vite. En fait, il suffit de faire une petite pause dans son jogging et en général, ça passe.
Exactement. Alors, c'est vrai que normalement, lorsque vous cessez l'activité, vous avez plus mal. Et il faut faire très attention, puisque une douleur thoracique à l'activité sportive, c'est-à-dire que si vous faites un jogging où vous montez des escaliers et que vous avez une douleur au niveau de la poitrine, une oppression,
ça n'a rien à voir avec le point de côté,
pectoraux,
hein, ouais.
qui doit limiter votre effort. Dire, là, j'ai un poids sur la poitrine, là, c'est peut-être une cause cardiaque. Le point de côté, c'est vraiment une douleur très ponctuelle qui ne survient pas à chaque effort, de temps en temps, lorsqu'on n'est pas préparé. Mais si vous constatez que régulièrement, pour des efforts de plus en plus faibles, vous avez des oppressions thoraciques, il est évident qu'il faut contacter votre médecin, appeler le 15 si la douleur persiste. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas se tromper entre une douleur d'origine cardiaque et ce simple point de côté qui peut aussi toucher les enfants. Et puis, c'est très impressionnant. Il faut juste leur expliquer que c'est
un
exercice.
J'ai des souvenirs à l'école primaire. Pendant les premiers footings autour du stade, ça m'arrivait tout le temps.
Ça fait mal. Bah, faites comme moi, ne faites plus de footing et vous verrez, tout ira bien.
Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc qui va nous parler aujourd'hui de tromperie. Tout ça, c'est dans un instant. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé, le bien-être et la sexo, évidemment, c'est sur Europe 1. Et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui entre à l'instant dans ce studio. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux, allez-vous bien ?
Écoutez, ça va bien, on vous attendait avec impatience, Jimmy.
Bah, comme toujours, ça va très bien.
Bon, super.
Allez, c'est parti, je vais en profiter pour vous lire donc la question d'Elisabeth. Elisabeth, elle a 43 ans et vit à Paris. Et elle nous a écrit la chose suivante. J'étais en déplacement professionnel le mois dernier. J'ai couché avec un collègue qui est particulièrement attirant. Un accident, comme on dit, depuis je culpabilise. Est-ce que je dois forcément en parler à mon mari et prendre le risque de casser 10 ans de mariage ? Alors Catherine, pourquoi certaines personnes comme Elisabeth commettent finalement une infidélité alors qu'elles aiment leur partenaire, elle le dit ?
Parce que à ce moment-là, le désir est toujours quelque chose qui vient nous tarauder. On peut aimer, être fidèle, pour autant, on peut avoir l'appel des sirènes pour une raison ou une autre. Mais l'appel des sirènes ne veut pas dire la consommation. Après, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a consommation. Il y a aussi la pression du groupe social qui est le cadre professionnel, parce que il y a une intimité qui se fait. On est ensemble.
On est loin de l'être cher.
On est loin, donc c'est une autre vie, comme un autre. Voilà, on n'est pas sur les mêmes. Voilà, s'il y a un avant et un après, et on laisse tout là où on a rencontré, où on a commis le moment de l'adultère. Sauf que, évidemment, après, il va falloir faire avec. Et souvent, d'ailleurs, dans le cadre professionnel, il y a une sorte de pression parce qu'on sort ensemble après, ou on boit, ou il faut montrer qu'on n'est pas. On n'est pas coincé, il faut montrer qu'on est plein d'ambition. Donc, qui dit ambition, c'est toutes les ambitions, dont la sexualité. Et assez volontiers, on finit par glisser là où on n'avait peut-être pas l'intention de glisser.
Jimmy.
Est-ce que ça veut dire pour autant que tout va mal dans son couple, qu'il y a un problème ? Est-ce qu'on peut tromper quelqu'un alors que tout va bien dans une relation ?
Oui, ça ne veut pas du tout dire que l'on n'aime pas son partenaire. Ça veut simplement dire que l'on peut avoir des curiosités d'ailleurs, des curiosités d'autrement ou d'être perçu autrement. C'est-à-dire qu'avec dans son couple, on peut avoir une façon de fonctionner. Et tout d'un coup, on est vu autrement et on est séduit par l'idée d'être vu soi-même autrement, qui fait qu'on a envie d'explorer cela. Sauf qu'évidemment, tout ça, c'est assez fake, puisque c'est vraiment une histoire qui se joue sur un espace donné et qui ne correspond pas à la connaissance réelle de l'autre, la connaissance réelle de soi et de ses valeurs à soi. Et donc, c'est là que du coup, ça devient un peu un goût un peu amer.
Elle vous demande très franchement, est-ce qu'elle doit forcément en parler à son mari ? Parce que clairement, on se doute qu'il ne va pas apprécier la chose. Elle dit 10 ans de mariage. Est-ce que vous lui conseillez d'aller en parler à son mari, de lui dire, voilà, j'ai fauté, ça ne signifie rien, ou vaut mieux le garder pour soi ?
Déjà, moi, je trouve intéressant la question parce que ça pose la question du pourquoi. Elle ne se sent pas très bien avec cette histoire et elle voudrait se sentir bien. Et pour se sentir bien, elle voudrait en parler à son mari.
C'est souvent ça, hein. Voilà. C'est pour se soulager.
Je trouve que c'est une façon de faire porter à l'autre la responsabilité de la suite, de la punition, si elle sait que de toute façon, il va ruer dans les brancards. C'est une sorte d'invitation à la punition, comme pour se laver de sa faute.
Donc plutôt motus et bouche cousue.
Alors, ce n'est pas motus et bouche cousue, parce que je trouve bien aussi l'honnêteté. Mais je crois qu'il faut d'abord réfléchir à quoi on joue. Est-ce que c'est pour se décharger sur un mari qui va devoir porter ça, il va se le voir en boucle Ou alors est-ce que c'est parce qu'on veut que la relation casse finalement et que c'était une façon de trouver un truc au nom de la bonne morale qui est la sienne, après avoir été moins bonne du coup, ça devient le mari qui va être à l'origine de la séparation, alors que c'est soi-même qui avons acté de l'infidélité.
Jimmy ?
Infidèle un jour, infidèle toujours. Est-ce que Elisabeth risque de recommencer ? Qui a péché, péchera. Est-ce qu'elle risque peut-être de refaire cet accident, comme elle dit, ou on peut vraiment juste avoir une erreur de parcours et puis s'arrêter là ?
Tout dépend si on en apprend quelque chose. Je pense que si elle se sent mal après cela, je pense qu'il est intéressant d'en apprendre des choses pour se dire que finalement, à peine consommé, c'est déjà loin derrière soi et sans écho, et que ça ne sert à rien de risquer la relation, la qualité de la relation pour cette raison-là. Maintenant, si une fois qu'elle s'est débarrassée de sa culpabilité, eh bien, elle a déjà oublié qu'elle en avait, ben, elle risquera de refaire à l'occasion d'un autre glissement de terrain, à l'occasion d'un autre congrès je ne sais quoi, professionnel, parce que encore une fois, bon, ben, ça s'est passé, alors on peut le retenter.
Donc l'honnêteté ne fait pas toujours partie de l'amour, hein ?
Non. Je pense que l'honnêteté, c'est aussi, on est adulte et il faut savoir aussi porter son histoire et porter ses bourdes. Et puis aussi, et pas se dire que le dire, je serai, voilà, ça y est, je suis clean parce que je l'ai dit. Non, je trouve que c'est aussi faire porter des choses trop douloureuses à l'autre.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain évidemment dans son rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h. Tout de suite place à Mathieu Noël et à son équipe et sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Combien vous avez d'enfants Mélanie?
Oh, 18 au moins, non, deux enfants.
Est-ce que vous comptez en faire d'autres?
Non, ça c'est terminé, j'ai fait ce qu'il faut.
Oui, alors si vous regardez le spectacle de notre invité aujourd'hui, Olivier de Benoît, le petit dernier, ben, vous allez clairement vous arrêter. C'est un spectacle qui fait relativiser la joie d'être père. Mais on va passer quand même 2 heures très agréables avec Olivier de Benoît.
Très bien, alors si j'avais besoin de confirmer ça, je vais écouter, mais j'en suis certaine. En tout cas, merci beaucoup, ça sera très informatif, j'en suis sûre. Merci Mathieu, et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.